les podcasts de Radio Vatican.
Les travaux de la COP23 s'achèvent ce vendredi à Bonn avec la mise en place d'une alliance de 20 pays pour sortir du charbon. Une alliance formée de plusieurs pays européens, du Canada et de pays d'Amérique centrale, tandis que les États-Unis confirment leur décision de sortir des accords de Paris. La COP23 avait pour principal objectif de mettre en place des règles d'application de l'accord de Paris. D'ici la COP24, dans un an en Pologne, un dialogue sera lancé pour permettre aux pays de revoir leurs engagements à la hausse, des engagements qui se révèlent aujourd'hui amplement insuffisants pour tenir l'objectif d'une limitation à 2 degrés du réchauffement de la planète. Et 2 degrés Celsius seront déjà lourdes conséquences pour les atolls, pour l'ensemble des littoraux et pour les ressources halieutiques. Une question cruciale, souligne Christian Buchet, historien de la mer et chercheur au CNRS. Il vient de publier « La grande histoire vue de la mer » aux éditions du Cherche Midi.
Le réchauffement climatique est là et la montée des eaux résulte à 82% aujourd'hui du réchauffement climatique. Ça paraît un peu curieux, mais la mer, c'est comme tout corps physique. Sous l'effet de la chaleur, il dilate. Et c'est cette dilatation de la mer qui, encore une fois, explique aujourd'hui la montée des eaux. Et cette montée des eaux, bien sûr, on parle parfois des îles Kiribati, mais elle touche tous les littoraux du monde entier. Par exemple, si vous vous intéressez aux côtes françaises, 23,4% des côtes françaises aujourd'hui sont fortement victimes de l'érosion. Il y a des régions du globe où c'est particulièrement préoccupant. Parce que certains pays vont pouvoir se protéger, d'autres non. Je pense en particulier au Bangladesh, qui a une démographie côtière considérable, dont cette montée des eaux pose les pires problèmes, pas simplement par rapport, si vous voulez, à l'invasion, à l'attaque des habitations, mais ce qu'on ne mesure pas toujours, c'est qu'en montant, les eaux se déversent vers les estuaires, rentrent à l'intérieur des terres, c'est-à-dire que ça provoque ce qu'on appelle une salinisation des terres. Les terres deviennent impropres à l'agriculture, donc vous voyez, ça pose des problèmes physiques, en termes d'agression contre les habitations, mais ça pose des problèmes également en termes d'alimentation.
Où est-ce qu'il est le plus important aujourd'hui d'agir en amont ou en aval? En amont, c'est-à-dire faire le nécessaire pour limiter le réchauffement climatique et au plus vite, et en aval, construire des digues, se protéger physiquement contre la montée des océans.
On va être condamné à faire les deux, parce qu'on a du mal à stopper le réchauffement climatique, parce que déjà les mers montent, parce qu'un réchauffement de 2 degrés, c'est déjà sacrément préoccupant en termes d'érosion, donc il faudra faire les deux. Lutter contre la base qui est l'érosion, qui est le réchauffement, et bien sûr prendre en parallèle un certain nombre de mesures de défense. Si je prends Sainte-Marie-de-la-Mer en France, vous savez, en Camargue, si on n'avait pas mis des ouvrages de protection, Sainte-Marie-de-la-Mer, on aurait les pieds dans l'eau aujourd'hui. Donc il faut voir que c'est déjà une réalité. C'est vraiment quelque chose de ce point de vue qui est tout à fait préoccupant.
Est-ce que l'on sait économiquement combien coûte la protection contre la montée des océans et le réchauffement climatique?
Ça n'a jamais été fait. Il y a des modélisations économiques qui sont faites quand on se pose la question, est-ce que ça vaut le coup de défendre tel ou tel ouvrage? Donc s'il s'agit par exemple d'habitation, on va vous calculer, il y a des modélisations qui sont faites notamment dans différentes universités françaises, quel est le prix moyen locatif du mètre carré? Au total, quelle est la valeur marchande de ce que j'ai à défendre? Vous mettez en vis-à-vis effectivement les ouvrages de protection que vous envisagez, parce qu'il y a plusieurs types de formules d'ouvrages de protection, et on voit si ça a une rentabilité économique. Si bien qu'on arrive parfois à des aberrations, parce que certains maires ont intérêt à bétonner leur littoral pour augmenter la valeur marchande de leurs biens à défendre, pour justifier le recours à des constructions. J'aimerais attirer votre attention sur un point. Parce qu'il y a un lien entre les émissions de CO2 et le réchauffement climatique. Mais on oublie quelque chose, et d'ailleurs on l'avait oublié dans le cadre de la COP21. Aujourd'hui, les océans nous rendent un service formidable. C'est d'absorber entre 30 à 40% des émissions de CO2, probablement beaucoup plus aux alentours de 37%. Si les océans n'absorbaient pas ces émissions de CO2, nous aurions tous beaucoup plus de maladies liées à des défenses immunitaires, de maladies allergisantes, etc. Mais si vous interrogez la mer, les mers, depuis le temps qu'elles absorbent ces émissions de CO2, sont en train de s'acidifier. C'est-à-dire que, oui, il est important de stopper le réchauffement pour éviter que la mer monte, mais il est de toute manière impératif de limiter ces émissions de CO2 parce que les mers s'acidifient, et cette acidification des océans, c'est la menace première qui pèse sur les mers. Elles sont en train, cette acidification est en train de détruire une partie du vivant qui se trouve dans la mer. Au point que, je cite un laboratoire qui est loin d'être, je dirais, un temple de l'écologie, c'est la Royal Society britannique, à l'horizon 2100, alors pas de panique, on n'est pas en 2100, principalement à la hauteur des pôles, parce que c'est là où ça dérive, les coquilles de certains ptéropodes, qui sont les coquillages les plus communs, pourraient se dissoudre. Donc il y a un véritable enjeu, c'est une nécessité, indépendamment du réchauffement climatique, c'est une nécessité de toute manière de limiter nos émissions de CO2. Mais si vous voulez limiter vos émissions de CO2 à l'horizon 2040-2050, il est urgent d'impératif d'agir aujourd'hui.
Un entretien réalisé par Jean-Charles Puzelu.